BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On donne le coup d'envoi ensemble de BFM Patrimoine, vos deux heures d'expertise quotidienne liées au monde de vos placements. Et on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls de la première heure de cotation, voir ce qui se dit entre les différents acteurs de marché grâce à Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine. On grimpe, mais
bonjour Cédric.
Il y a aussi un petit peu d'hésitation.
Bah, évidemment, ça, vous avez résumé le climat qui va régner en cette journée, bah, d'ici 14h30, d'ici évidemment l'indicateur du jour, hein, l'inflation américaine bien sûr. Ce sera véritablement ce qui va donner le ton pour le reste de la semaine et sans doute à un peu plus long terme, hein, en matière de climat sur les marchés. Ce qu'on peut dire de toute manière, c'est qu'on sort quand même de 5 séances consécutives de hausse sur le CAC 40, que le sentiment s'est considérablement amélioré depuis la semaine dernière, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être intégrées au cours, que les marchés étaient peut-être un peu survendus, que beaucoup d'investisseurs américains notamment s'étaient couverts à la baisse contre une possible forte correction des marchés et que du coup, comme ça n'arrête pas de grimper en ce moment, mais ils sont obligés de racheter leurs positions, ce qui fait grimper les indices, ce qui provoque aussi un petit peu de volatilité. On a vu d'ailleurs le VIX américain repasser en légère hausse du côté des 23-24 points. Donc ça, c'est à noter, ça pourrait occasionner un petit peu de mouvement, un petit peu d'intensité sur la séance d'aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, on attend maintenant l'inflation américaine. Donc 14h30. Alors on attend une inflation qui commencerait doucement à reculer, à refluer. On partait de 9,1% sur le mois de juin. On a atteint 8,5% en juillet. On attend un reflux du côté des 8% là pour le mois d'août. Avec sans doute un reflux un peu plus important que prévu des prix agricoles. Alors ça, c'est dans une étude de Goldman Sachs qui est parue ces dernières heures, qui prendrait en fait le relais de la correction sur le pétrole qui avait déjà engendré cette petite baisse de l'inflation sur les mois précédents. Donc on attend, en espérant secrètement, une bonne surprise, mais pour l'instant, l'a priori est positif. Le CAC gagne 0,62%, 6374 points. Du côté des autres places européennes, on est en hausse aussi. Plus 0,5% pour l'Eurostoxx 50 et plus 0,3% pour le DAX à Francfort. Alors on revient sur le secteur du luxe aujourd'hui avec des hausses assez marquées. L'Oréal gagne 2,6% à 361,70€. On a Kering plus 1,7 à 538,80€ et Hermès plus 1,59 à 1338,50€. On a un vrai pli sur les valeurs de croissance puisque les technos figure aussi parmi les plus fortes hausses du jour. Téléperformance gagne 1,45% à 301,10€. Puis on a d'autres valeurs un peu plus défensives. Publicis, tiens, par exemple, qui gagne 1,6% à 53,94€. En revanche, à la baisse, sont clairement les valeurs industrielles qui sont mises de côté. Alors, sans doute des prises de profit après des bonnes performances signées ces derniers jours. On a ArcelorMittal, moins 0,8% à 23,50€. Alstom signe la plus forte baisse du CAC à moins 2,27, 21,48€. Et puis on a Michelin aussi, moins 1% à 24,57€. Plus forte hausse du SBF 120, c'est EuroAPI. Encore une belle performance. Le titre gagne 3,7% à 17,41 et à la baisse, c'est Aperam, moins 2,64 à 26,91€. Le CAC, donc plus 0,58%. On est à 6370 points. En attendant l'inflation américaine, la vague d'optimisme pour l'instant continue sur la côte parisienne. L'euro, 1,0146. À noter le Bitcoin qui s'est bien redressé encore et qui maintenant est au-delà des 22 000 $. Et puis le pétrole brut qui grimpe à nouveau assez sensiblement. On est à 94,80 $ sur le brut de mer du Nord.
Antoine Larigauderie. Merci Antoine.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
On retrouve Eric Lewin depuis la Bourse au quotidien. Bonjour Eric.
Bonjour mon cher Cédric.
Vous nous proposez ce matin un éclairage sur freelance.com.
Oui, alors capitalisation 336 millions d'euros, c'est une plateforme de placement de consultants indépendants, plateforme de ce qu'on appelle intermédiation, avec également une gestion des indépendants, vous savez, avec le portage salarial. C'est-à-dire que le groupe offre également aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales. Pourquoi je vous parle de ce dossier? C'est parce que c'est un dossier un peu méconnu, pourtant il brille, 26 trimestres de hausse consécutive de son chiffre d'affaires. Sur le deuxième trimestre, encore une hausse de 77,9% et de 27,3% en organique. Sur le premier semestre, ça fait plus 80% et plus 23% en organique. L'objectif cette année, c'est de faire 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il devrait les dépasser. Et le milliard d'euros prévu en 2025 devrait également être dépassé sans doute en 2024. On est sur un énorme marché. C'est un marché de 40 milliards en France et de 380 milliards en Europe. La société, contrairement à tous ses concurrents, est rentable, puisqu'en termes d'exploitation, on est sur une rentabilité de 3,5%. En termes de marge nette, on est sur un niveau de 2,3%. Alors pourquoi je vous parle de la société ? Parce que depuis le début de l'année, ça ne marche pas fort. 26% de baisse depuis le début de l'année. Assez inexplicable, parce que tous les indicateurs économiques sont au beau fixe. En plus, quand vous faites les ratios boursiers, Cédric, la valeur n'est vraiment pas très chère. En valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, on est sur des niveaux de 0,3. Valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, on est sur des niveaux de 10. Et quand vous comparez avec le gros concurrent américain Fever, la différence est flagrante, parce que Fever, c'est 1,3 milliard de capitalisation boursière, c'est-à-dire c'est 4 fois la capitalisation de Freelance. Et pourtant, au premier semestre, quand Freelance fait 383 millions d'euros, eux, ils font 171 millions de dollars. Et quand Freelance est positif en exploitation, eux, ils perdent 58 millions de dollars. Donc c'est un petit peu incompréhensible. Et moi, mon feeling, c'est que la société peut aller tranquillement vers les 9 euros à terme dans les 6 mois qui viennent, parce qu'elle est assez méconnue. Pourquoi est-elle méconnue ? D'abord, elle est peu suivie par les analystes. Ensuite, elle est détenue par son actionnaire CBV Ingénierie, qui a 60% du capital, ce qui veut dire que le flottant réel, si vous enlevez la part des managers ou de certains fonds, est simplement de 11%. Et donc, la problématique, elle est là, c'est qu'il y a très très peu de volume sur le titre, il y a 5 à 10 000 titres par jour, c'est pas assez, il y a peu de fonds quand même présents.
Et Eric, ça veut dire qu'il faut vraiment insister sur ce point, parce que ça veut dire que si l'un ou l'autre de nos auditeurs est séduit par votre démonstration, ça reste quand même un titre sur lequel on peut, le mot est peut-être un peu exagéré, mais se retrouver piégé.
Bah écoutez, il faut pas passer. Il faut si on doit rentrer dans la technique boursière, il faut pas passer des ordres à tout prix, passer 3-4 000 titres à tout prix, parce qu'on peut faire s'envoler le titre. Mais si on passe des ordres à ordre limité, et si on est patient sur ce genre de dossier qui ne doit pas représenter, je le précise, plus de 2% du portefeuille, parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi et mettre 15% d'un portefeuille sur ce genre de valeur. Moi, je pense que le retour sur investissement peut être très intéressant, parce qu'encore une fois, dans le secteur, la société est non seulement rentable et elle est moins chère que l'ensemble de ses concurrents. Et puis, qui dit qu'un jour CBV Ingénierie qui a 60% du capital ne sera pas séduit par un Randstad, par un Manpower, par un Adecco et se fera croquer. On sait jamais, tout peut se passer dans ce monde de... Alors c'est pas de l'intérim parce que c'est une plateforme de prestations indépendantes, mais c'est un secteur quand même qui y ressemble. Donc il y a beaucoup de fusions acquisitions et qui dit qu'un jour freelance.com ne sera pas avalé.
Donc vous fixez quoi comme objectif de cours?
Écoutez, dans un premier temps 7,50 €, faut pas être trop gourmand, et dans un deuxième temps, c'est-à-dire à horizon 9 mois, disons 9 €.
9 euros, ce qui nous ramènerait sur un cours historique, hein, parce que le plus haut, c'est 8,50 il y a en janvier, quoi.
Écoutez, ouais, c'est 8,71, oui, c'est ça, au-dessus du plus haut. Oui, mais enfin, la société a beaucoup changé. Ouais. Hein. Alors, il faut savoir quand même qu'on fera sans doute 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, non pas en 2025, mais en 2024. Donc, on est quand même sur une société qui connaît une croissance exponentielle, d'où mon objectif de cours au-dessus des plus hauts historiques.
Eric Lewin, la Bourse au quotidien et son éclairage ce matin sur freelance.com qui gagne 1,01% ce matin à 6,03 € dans un marché lui aussi haussier de 0,68% sur le CAC à 6376 points. Merci Eric. Eric Lewin depuis donc la Bourse au quotidien.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
L'heure de retrouver Irina Topasseri. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Comme chaque mardi avec nous depuis AXA IM, après 2 mois d'accalmie, l'inflation est repartie à la hausse en Allemagne. Je dis bien repartie parce que c'est une confirmation, hein, c'est un chiffre définitif. Voilà qui nous replonge finalement dans le choix de la BCE.
Ah oui, et j'ai envie de dire même que la prochaine publication de l'inflation du mois de septembre, c'est-à-dire la seule nouvelle publication que la BCE aura avant sa prochaine réunion, risque à nouveau d'être assez élevée. Hein. Donc, somme toute, les 75 points de base que nous avons vus la semaine dernière pourraient être tout à fait poursuivis par une nouvelle remontée des taux de l'ordre de 75 points de base aussi en octobre. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a un vrai emballement un petit peu des faucons, hein, parce que j'ai l'impression effectivement qu'aujourd'hui, les faucons ont pris la main. Hein. Ne serait-ce que si on regarde comment la BCE nomme son objectif, qui, je vous rappelle, avant c'était inférieur mais proche de 2%, maintenant on parle plus que de proche de 2%. Donc voilà, nous sommes dans une phase de, donc, d'accélération, si vous voulez, du resserrement monétaire. Le marché price autour de 2,25% sur les taux directeurs européens horizon 2023. C'est quand même 100 points de base supérieur à ce qu'il pensait au mois d'août. Donc on voit bien l'emballement. Maintenant, je dirais deux choses. Hein. D'abord, ce qui nous a un peu épaté sur la dernière intervention de la BCE, c'est pas tant que ça les 75 points de base, mais c'est surtout les prévisions de la BCE, donc qui viennent avec la décision, qui était assez optimiste pour nous concernant la croissance en Europe. Donc, je vous rappelle, c'était le chiffrage de la BCE tourne pour une croissance du PIB européen de 0,9% l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il y a à peine une contraction perceptible au quatrième trimestre. Pour mettre ça en perspective, nos économistes de la zone euro prévoient une croissance l'année prochaine de 0,1%. Donc une contraction bien franche au quatrième trimestre et au premier trimestre de l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est un peu, on a l'impression qu'effectivement, il y a évidemment des incertitudes sont énormes. Hein, donc voilà, on ne va pas dire le contraire. Hein. La guerre, les suites et les implications macroéconomiques sont assez inconnues. Quid de, j'entendais tout à l'heure, des plafonnements du prix du pétrole ou du gaz et ou du gaz russe, limitation des prix du gros d'énergie. Enfin, tout ça, vous voyez bien que ça va peser énormément, mais on a l'impression effectivement qu'il y a une sorte de manque de confiance dans les modèles, effectivement, d'accord, qui ont tardé la BCE de rentrer dans la remontée des taux, et que du coup, peut-être qu'on est trop omnibulé par les données courtes, et on va peut-être errer à resserrer peut-être trop. On va pouvoir basculer dans l'autre sens. C'est une possibilité aussi.
Voilà pour l'aspect européen. Puis l'autre chiffre qui va nous préoccuper, c'est l'inflation américaine, et donc la Fed.
Ah bah oui, et là, j'ai regardé le consensus de marché, table sur un reflux de l'inflation de 8,5% au mois de juillet à 8,1% au mois d'août. Bon, ça me semble assez ambitieux, mais peut-être. Hein. Mais par contre, j'ai envie de dire, il y a eu quand même des bonnes nouvelles aux États-Unis récemment sur le marché du travail. Nous avons vu ce fameux taux de participation qui remontait. Une sorte de décélération, on va dire, de la croissance salariale, même si quand même elle est toujours pas en ligne avec une inflation à 2%. Mais en face de ça, nous avons des commentaires là aussi, comme à la BCE, à la Fed. On a eu Jay Powell, on a à peu près tous les gouverneurs. On a l'impression que le niveau d'alerte est très élevé à la Fed. Donc là aussi, peut-être que la semaine prochaine, c'est pas un 50 points de base qui va nous arriver, mais plutôt possible de voir la Réserve fédérale remonter de 75 points de base à nouveau ses taux directeurs. Donc maintenant, on rentre aux États-Unis dans le niveau restrictif des taux directeurs.
Merci beaucoup Irina Topasseri, AXA IM qui nous accompagnait ce matin. Très bonne journée sur le marché, Irina. Le CAC progresse de 0,68%. On est à 6376 points.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On reçoit ce matin Frédéric Puzin pour Corum. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric, bonjour Marie.
Merci d'être avec nous. Beau fixe sur les SCPI, record de collecte au premier semestre. Hein, et le deuxième trimestre est même historique, il y a 2,6 milliards de collectes. Il semble d'ailleurs que vous avez la première place dans du classement.
Youpi !
Alors, vous voyez que ça me fait un sourire particulièrement.
Excusez-nous hein.
Oui, non, Frédéric, c'est pas le genre à s'emballer comme ça, non.
Non, ben c'est en fait la SCPI, voilà, récolte un petit peu les fruits du passé. Elle a passé la crise du Covid, la pandémie au la main. Voilà, l'année dernière, je crois que la moyenne des rendements était autour de 4,5%, donc c'est plutôt très correct dans le contexte de l'année 2021. Et donc, il y a toujours cet engouement autour de la SCPI.
Mais il n'y a pas d'enthousiasme. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait de la collecte ?
Non, parce que je vais peut-être vous donner un scoop, mais gérer une SCPI, notre mission, c'est avant tout de bien investir, bien gérer les immeubles et pour délivrer une bonne performance, donc payer des bons dividendes à nos clients et aussi faire en sorte que le patrimoine s'apprécie, donc soit payer des dividendes sous forme de plus-value quand on vend des immeubles, soit au contraire qu'il y ait l'appréciation du prix de part. Et avoir beaucoup d'argent à investir, c'est une responsabilité et on n'est pas dans un monde forcément très facile pour investir. En tout cas, on sort d'un monde qui était très compliqué, avec des taux d'intérêt qui étaient élevés et donc des immeubles qui étaient plutôt très chers et des loyers relativement faibles par rapport à la valeur des immeubles.
Mais ça fait longtemps que vous nous dites ça, Frédéric. En gros, c'est pas une bonne nouvelle, les grosses collectes.
Non, parce que, oui, vous allez comprendre, le sujet, il est très simple. Notre responsabilité, c'est d'investir, de bien investir, d'accord ? Et bien investir, il faut trouver les immeubles qui correspondent. Et donc, il faut trouver des immeubles qui soient dans des marchés assez faciles pour les investisseurs, donc qui ne soient pas à la main des vendeurs, que les acheteurs puissent acheter dans de bonnes conditions. Et pour éviter deux choses, la dilution. Si on n'investit pas assez vite l'argent qui nous est confié... Alors, la dilution, c'est un gros mot, hein, je suis désolé, hein, cette antenne. La dilution, c'est quoi ? C'est, vous êtes venu ce matin, ma chère Marie, avec un croissant que vous vouliez partager à Cédric.
Non, je ne partage pas.
Pas de problème, je suis là. Donc, le croissant, vous êtes plus deux à le partager, vous êtes trois. Ça s'appelle la dilution. Donc, dans les CPI, il y a des associés. Si de nouveaux associés arrivent avec de l'argent, qu'on ne peut pas investir l'argent, ça veut dire que les loyers qui vont être partagés sous forme de dividendes, ben, unitairement, individuellement, ils vont baisser.
Donc, clairement, si je dois résumer grossièrement, plus il y a de collègues, moins ceux qui, justement, investissent en SCPI gagnent de l'argent.
Non, alors il faut
c'est le risque qui pèse sur les épargnants.
Oui, c'est le risque inhérent. Et puis alors, le danger qui va avec, le corollaire, c'est que pour être tenté d'investir rapidement, et donc éviter l'écueil que je viens de vous présenter, vous pouvez acheter vite... mais peut-être un peu cher, ou sciemment cher pour investir la collecte. Mais qui dit cher dit en théorie rendement plus faible, ça c'est le point numéro un. Puis point numéro deux, quand on achète cher, on prend plus de risques, puisque fatalement, le jour où le marché se retourne, on aura pris, on aura acheté plus cher, et donc s'il y a une perte, ou en tout cas, même si le marché devait évoluer positivement, votre perspective de gain est inférieure.
Donc, c'est pas la panacée, on a bien compris, mais vous avez quand même pas mal de succès, donc j'imagine que vous maîtrisez un petit peu la façon dont on mène les débats. C'est quoi la recette pour rester maître du jeu finalement ?
Et la recette, alors c'est un petit peu antinomique avec ce que vous avez dit en introduction, puisqu'on c'est vrai qu'on est leader de la collecte au deuxième trimestre, mais c'est vraiment un autre corps défendant. La recette numéro un, c'est maîtriser la collecte. C'est-à-dire que si votre métier, c'est d'abord investir l'argent qui vous est confié et l'investir dans de bonnes conditions, il faut faire que, dans certains cas, il faut limiter la collecte.
Donc fermer, entre guillemets, fermer le...
ou la ralentir. Ouais. Voilà. Et donc, ne pas être sous la pression et le flux de l'argent, qui est un truc extrêmement basique en matière de gestion d'investissement.
Et ça se fait beaucoup dans les CPI entre guillemets, de fermer, parce que dans les fonds de gestion, par exemple, je sais que nos petits camarades de chez Moneta, qui interviennent régulièrement sur l'antenne, Romain Burnand, certains fonds, notamment dans les micros, ils les ferment, quoi. Et il y en a un qui était resté fermé très longtemps.
Oui, alors nous, on gère aussi des fonds obligataires, on fait la même chose. Des fois, on ferme les fonds parce qu'on n'est plus capable d'investir dans de bonnes conditions. Ouais. Donc, en SCPI, on fait exactement ça.
Mais est-ce que ça, c'est un beau signe pour ceux qui nous écoutent ? Est-ce que, par exemple, typiquement, il faut que je cible ceux qui sont en capacité de me dire « Non, là, non ».
Après, chacun a ses convictions. Déjà, on vous expliquait qu'ils sont capables d'investir à tout moment et tout instant. Moi, Frédéric Puzin et Corum, je ne sais pas faire. Et je ne sais pas le faire en permanence. Voilà. Donc, on ne ferme pas, on ralentit la collecte, parce que le marché immobilier, quand on investit sur l'Europe, il y a toujours une solution d'investissement. Mmh. Sauf que elle ne va pas toujours être dans la même densité, dans les mêmes possibilités. Et donc, il faut savoir ralentir et avoir cette discipline. C'est fondamental pour maintenir à la fois la performance et investir dans de bonnes conditions.
Vous êtes régulièrement aussi venu nous voir pour nous dire faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faut diversifier, etc., etc. Et il y a notamment les SCPI de santé qui ont un énorme succès depuis plusieurs années. Et les performances, elles sont toujours là.
Alors, oui, les performances sont là. Il s'est passé un petit quelque chose, là. Depuis 2-3 ans, elles étaient au haut du pavé. Et puis, alors, elles ont accéléré avec le Covid, parce que c'est évident, il y a 2 ans, on parlait très peu... on était dans un autre monde. Ouais. Ce qui comptait, c'était la crise du Covid, les problèmes des locataires, etc. Et évidemment, l'immobilier de santé était une évidence. Donc, elles ont surfé là-dessus. Elles avaient déjà très bien démarré, il y a déjà 5-6 ans. Elles ont surfé là-dessus. Et depuis deuxième trimestre, il s'est avéré qu'elles avaient un petit peu ralenti leur collecte. Elles sont passées du premier trimestre de 510 millions d'euros de collecte à, je crois, 410 le trimestre dernier. Donc c'est un peu un recul historique qui s'explique sans doute pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que investir de façon spécialisée dans la santé, c'est un petit peu antinomique avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé sur un marché. Alors, ça peut être une très bonne idée. Et les CPI de santé étaient une très bonne idée. Sauf que le monde a un petit peu changé, on est dans un monde un petit peu différent, et que sans doute, il y a une préoccupation aussi des épargnants par rapport à un niveau de rentabilité. On a 6% d'inflation en France. Une SCPI qui fait 4,5% ou 5%, on est encore loin de combler l'inflation.
Et du coup, justement, c'est quoi la prochaine SCPI de santé ? Même si on a bien compris, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Mais la prochaine opportunité que vous pressentez aujourd'hui, puisque le monde change ?
Ouais, alors d'abord sur la santé, je pense que c'est un secteur qui est hyper mature. Tout le monde a eu cette très bonne idée, pas que les SCPI, il y a beaucoup d'investisseurs. Ouais. Donc évidemment, quand vous avez beaucoup de gens qui s'intéressent à un sujet, vous faites monter les prix. Ouais. Voilà.
Et donc alors, là, faut
pas,
partir.
Je dis pas qu'il faut partir, mais ce que je dis, c'est que c'est un peu moins facile et ça reste une bonne idée sociétalement et dans le projet, mais c'est un peu plus compliqué pour investir. Après, la future bonne SCPI, si je le savais. D'abord, je ne vous le dirai pas. Et puis, je pense qu'il faut rester extrêmement ouvert. Il y a des gens qui sont visionnaires. Voilà. Il y a une dizaine d'années, faire de la logistique, c'était un truc absolument génial parce que vous étiez quasi pour tout seul. Nous, chez Corum, par exemple, on a fait ce qu'on appelle de l'activité. On a acheté des locaux industriels ou d'activité. On était tout seul à acheter. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces actifs sont prisés et recherchés par tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est le moment de vendre. C'est plus le moment d'acheter. En fait, les bonnes idées, c'est comme les vieux vins, quoi. Elles ont un millésime au-delà duquel, voilà. Il faut arrêter de consommer
et
arrêter d'acheter et boire. Quoi. Voilà.
Il y a une apogée.
Il y a l'apogée, exactement.
Bon, mais les performances 2021 des SCPI restent bonnes.
Alors, elles sont bonnes. Voilà. Mais on n'est plus dans le même monde, encore une fois.
Inflation à 6%, ouais,
inflation
c'est ça.
Inflation à 6%, je suis épargnant, on propose une SCPI à 4,5%. C'est bien.
Et puis mais... le gap avec le livret A, il n'est plus le même du coup.
Exactement, donc il y a une vraie question, il y a un vrai tropisme. Mais de l'autre côté, les SCPI doivent profiter aussi d'un contexte différent. Parce qu'on peut imaginer que ce qu'on voit sur tous les marchés, que ce soit les marchés actions, obligations, les taux d'intérêt qui remontent, fatalement le prix des immeubles, il doit bouger dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs mécaniquement, puisque les investisseurs sur le marché immobilier, ils sont privés d'un robinet qui est celui du crédit. Voilà. Et moins de crédit, ça veut dire qu'il y a moins de capacité d'achat. Les SCPI sont endettées à un certain moment. Certaines ont plus de 20% d'endettement. Ben, celles-ci vont avoir plus de difficultés. En tout cas, si elles veulent investir à 4,5 ou à 5, à trouver de l'endettement qui va leur coûter 3.
Ouais, mais alors ce que vous dites, Frédéric, c'est intéressant parce que pour le coup, ça peut encore plus amener de la collecte puisque le ticket d'entrée pour une SCPI est quand même nettement plus faible que de l'immobilier en direct. Et donc, du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, de toute façon, ça va pas être le sens, alors j'ai envie de dire de l'histoire, mais en tout cas de ces prochains mois, beaucoup de particuliers qui n'arrivent pas à décrocher leur crédit. On l'a beaucoup dit pour diverses raisons et notamment le fameux taux d'usure, se disent bon bah faut que j'emprunte moins ou alors que j'achète moins gros et donc dans ce cas-là est-ce que la SCPI c'est pas l'alternative idéale pour ceux qui veulent faire de l'immobilier?
Ben Marie, je pense que votre raisonnement doit être le raisonnement de pas mal d'épargnants qui explique
la
collecte au deuxième trimestre, sachant qu'on est à un point d'inflexion. Ça, évidemment il y a ce raisonnement, mais il va falloir que les SCPI bougent rapidement et trouvent des actifs et des investissements qui leur permettre de suivre le taux d'inflation et d'accompagner le taux d'inflation.
Oui, parce que pendant très longtemps quand même, le gros pitch de la SCI, c'était de la SCPI, c'était que ça rapportait plus que le fonds d'euro, que ça, enfin voilà, c'était l'espèce de deuxième produit miracle après l'actif
ça
général.
Rapporte toujours plus que le fonds d'euro, ça
ouais,
c'est sûr.
Mais maintenant il y a l'inflation qui s'est posée là-dedans.
L'inflation,
ouais.
Voilà, et c'est tout l'enjeu des mois, des semestres à venir. Il va falloir que la SCPI elle soit capable, peut-être si aujourd'hui elle ne trouve pas les produits pour aller tacler l'inflation, il va falloir que peut-être elle baisse la collecte, qu'elle dise aux épargnants, attendez, laissez-moi un peu de temps pour que je trouve les bons produits. Et puis après, il y a un autre vrai sujet, qui est la plupart des grosses SCPI de la place ont beaucoup, beaucoup collecté au cours de ces 6 dernières années. C'est un petit peu l'histoire du fonds en euros. C'est-à-dire que quand vous remplissez la péniche de sable, il y a un moment, elle touche l'eau. Et pour la faire sortir de l'eau, il faut enlever les actifs qui sortent pas grand-chose en rendement. Et le vrai enjeu, il est là. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une prime aux jeunes SCPI qui vont se créer, qui vont pouvoir entrer de nouveaux actifs. Et puis aux SCPI...
D'être plus mobile, d'être plus...
Voilà, et aux SCPI qui ont su garder un taux de rendement supérieur à l'inflation.
Bon, et c'est quoi la stratégie de Corum dans tout ça?
Nous, elle a été écrite depuis 10 ans. Nous, ça a toujours été, il faut investir avec des rendements élevés pour se protéger d'éventuels accidents. Donc, ça peut être le Covid. Là, on a une inflation qui est à 6%. On sait faire des SCPI qui font 6% ou plus. Et c'est la meilleure solution.
Et pour les autres, on enlève le sable ?
Ben pour les autres, peut-être qu'il faut geler la collecte, peut-être qu'il faut lancer de nouvelles SCPI. Je pense que ça ne serait pas idiot, dans le nouveau contexte, de lancer de nouvelles SCPI. Pour autant, il faut que le marché aussi immobilier bouge, comme les autres marchés, et qu'on voit une évolution des prix de l'immobilier, donc des taux de rendement qui deviennent cohérentes avec l'inflation. Ce qu'on voit quand même sur le marché immobilier, c'est qu'on voit encore beaucoup d'investisseurs investir en dessous de l'inflation et même plus, mieux que ça, avec des taux de rendement qui ne sont pas si loin des taux auxquels on emprunterait de l'argent, on pourrait le placer sur d'autres supports garantis. Donc on voit bien qu'on est, de façon générale, dans le monde de l'épargne, on est à un moment d'inflexion entre des épargnants, c'est ce que vous disiez Marie, qui se disent ça devient compliqué de faire l'investissement direct en immobilier notamment, donc pourquoi pas faire la SCPI, et de l'autre côté les SCPI qui doivent faire leur mouvement et trouver des investissements plus rentables.
Merci d'être passé nous voir, Frédéric. Frédéric Puzin et Corum, qui nous accompagnent régulièrement dans ce monde immobilier via les SCPI. Merci Marie, à demain.
À demain.
Pour le Club Immo, comme chaque mercredi dans un instant, ce sont nos traders qui ont la parole. Vous aurez leur regard technique sur la séance du jour. Puis vous n'oubliez pas non plus les podcasts qui vous attendent sur le site.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service pour vous délivrer, vous aussi, la petite note technique qu'ont tous les professionnels de marché sur le coin de leur bureau. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry sont nos professionnels du jour. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. Jean-Louis Cussac depuis Personnel Bonjour. Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, comment voyez-vous les choses? On a un grand rendez-vous à venir avec l'inflation américaine. Est-ce que ça transparaît déjà dans les choix des investisseurs?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Apparemment, ils sont optimistes sur ce rendez-vous puisque ça fait quelques jours que le marché anticipe de façon positive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a préservé des niveaux d'alerte qu'on évoquait la semaine dernière, la zone 5838, 6036 sur le futur CAC 40, des niveaux équivalents sur les autres indices. Et on a rebondi sur ces niveaux-là. C'était des niveaux dans lesquels on avait accumulé entre juin et juillet dernier, sur lesquels on avait beaucoup accéléré. Qu'on est revenu tester, il était important de les préserver. Maintenant, il faut plus y retourner puisqu'on a rebondi un peu, en tout cas à court terme. Reste que les relais pour accélérer manquent, on le voit au travers des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards tous les jours à Paris, et puis même de l'intérêt sur les marchés dérivés. Donc on s'oriente, à mon sens, et c'est le scénario qu'on pressent depuis quelques temps, dans un large trading range. Alors du côté de l'intérêt, la semaine dernière, baisse de la pression baissière sur le futur en milieu de semaine, avant la BCE, sur le futur CAC 40. Et puis, de l'intérêt vendredi dans la hausse, 12 000 contrats futurs ouverts, c'est beaucoup, sur le CAC 40. Alors, c'est beaucoup pour un contrat futur dans lequel l'intérêt est moyen pour l'instant. En revanche, du côté de l'Eurostoxx, pas de diminution de la pression baissière et de l'intérêt dans la hausse non confirmé vendredi. Donc globalement, on en retire un message un peu mitigé d'intérêt spéculatif dans une zone de range probablement et dans laquelle les investisseurs et les vendeurs n'ont pas capitulé. En revanche, ce qui alimente ce mouvement probablement aussi, c'est beaucoup de prudence de la part des opérateurs qui sont sous-investis, qui le disent d'ailleurs et qui le confirment, dans lequel on a toujours une volatilité qui est assez tendue, ce qui témoigne de la prudence, et puis des portefeuilles qui sont relativement couverts, même si l'intérêt est assez moyen, mais il y a toujours plus d'options de vente que d'options d'achat sur les niveaux actuels. Et en contrepartie, on arrive aussi sur des titres avec des niveaux d'intérêt, et c'est ce qui maintient aussi cet intérêt à court, moyen terme. On arrive sur des niveaux de retracement sur pas mal de valeurs qui sont assez intéressants. On développera ça peut-être plus à 11h30 pour les valeurs, mais il y a des points d'entrée et des valeurs qui ont énormément retracé, qui reviennent sur leur niveau pré-pandémique. Et donc, ça donne des points d'entrée probablement intéressants pour du moyen long terme, mais on voit que les opérateurs ne se précipitent pas sur le marché. Donc logique de range assez large en place, avec en bas donc 6036 qui est l'alerte de moyen terme, 5838 l'alerte de long terme. À court terme, il faut préserver 6134, on est repassé haussier depuis le débordement de 6134 sur le CAC 40. On s'installe au-dessus de la médiane, à mon avis, de ce range qui est 6315 points. C'est le niveau important au-delà duquel, si on arrive à clôturer une séance ou deux, on reprend des couleurs à moyen terme. Et on repasse en zone de neutralité de moyen terme. Les extensions, on en a touché une, c'est 6380,5, on bute dessus. La suivante est le gros niveau de résistance, c'est 6433. Et puis ensuite, c'est le gap du 22 août dernier qui, à mon avis, est le niveau de résistance, c'est la borne haute du trading range dans lequel on se situe. Donc 6036 en bas et en haut, 6485, qui est le haut du gap du 22 août dernier, qui représente à mon avis le plafond de verre qu'on va avoir du mal à déborder à court terme, d'autant plus que c'est dans une zone 6485, 6545 qui sont des très gros niveaux. Donc on risque d'évoluer entre ces bornes-là, en dents de scie, pendant quelques temps. Donc on a un biais acheteur au-delà de 6134, l'alerte de moyen terme, je rappelle, donc 6036, et l'alerte de long terme, 6838, on en est bien, bien loin maintenant. On alterne donc achat et vente avec un biais plus haussier au-delà de 6134 pour l'instant.
Voilà la lecture de Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, votre sentiment sur ce marché, effectivement, sur ces statistiques de prix qui constituent un peu la colonne vertébrale des préoccupations actuelles.
Oui, alors, on est à 380 millions de volumes là, échangés depuis ce matin. C'est en effet ridicule. On a une volatilité implicite à 20 Vous vous rendez compte, on vient de gagner sur quatre séances, parce qu'on a fait un point bas dans la première. 5,7% et la vol implicite, elle est encore à 20. Vous vous rendez compte, cette méfiance qu'il y a sur les marchés? Ensuite, la difficulté du trader, c'est quoi? C'est quand vous rencontrez comme ça une forte divergence entre l'évolution des prix et le bon sens, à savoir toutes les indications sur l'économie, sur la récession potentielle, sur beaucoup de choses extrêmement négatives, le ralentissement global de l'économie dans le monde, c'est assez perturbant parce que évidemment on revend toujours trop vite et on rachète toujours trop tard, enfin pas assez vite. Donc oui, ce sont des phases pas faciles à aborder, mais qu'on pouvait prévoir, notamment en achetant des options. Ça, j'avais insisté là-dessus et on reste de toute façon par rapport à 6000 qui était un gros niveau, où je disais que le je voyais pas le relais arriver. Bon, mais là maintenant je vais vous dire, le relais à la hausse, je le vois pas arriver. Alors bon, vous allez me dire, on a des considérations techniques très puissantes puisque l'échéance en plus c'est vendredi, donc il y a aussi des nouvelles qu'on attend cet après-midi, mais là c'est anticipé normalement quand même. Il est clair que on a vu le dollar s'affaiblir et la Fed, on dit, pourrait ralentir son resserrement monétaire. Mais bon, ok, c'est pricé. Alors on va voir, parce que si le marché s'envole cet après-midi sur de bonnes nouvelles, ça serait encore, entre guillemets, une surprise. Oui, bien évidemment, ça serait étonnant. Le marché, là, est pas facile à aborder. Moi, j'achète les yeux fermés, en gros, sur des replis jusqu'à 6250, puisqu'on est passé biais haussier. Et puis, j'infirme sous 6120. Voilà. C'est-à-dire que j'achète, et sous 6120, je n'achète plus. Je verrai en fonction de la situation, mais... Pour l'instant, le canevas, c'est ça.
D'accord.
Donc là, je suis placé jusqu'à 6000 ce matin, 287. Mais c'est vrai qu'on s'en est pas mal éloigné.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Dobré depuis Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure, Romain, à 11h30 pour suivre les évolutions techniques de cette séance du jour. Le marché parisien qui progresse de 0,45%, 6362 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose qui nous rejoint en plateau. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Le retour soudain de la réforme des retraites. Et oui, elle semblait lointaine, mais un nouveau rapport du COR a fuité hier et remet le dossier sur le dessus de la pile. Que dit ce rapport?
Deux choses très inattendues d'ailleurs. Excédent record en 2022 du système de retraite. 3,2 milliards d'euros d'excédent. Il y avait déjà un excédent d'ailleurs en 2021, 900 millions d'euros. C'est très rare, alors soulignons-le et réjouissons-nous. C'est pas compliqué à comprendre. Dynamique de l'emploi égale plus de gens qui travaillent, égale plus de cotisation égale plus de recettes. Voilà. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que 2023, c'est patatras. 2023, tout repart dans le rouge et tout se dégrade année après année de 2023 à 2035-2040. Et vous savez, il y a toujours plusieurs scénarios, le scénario rose, le scénario noir. On peut aller jusqu'à 20 milliards annuels de déficit des retraites en 2032, nous dit le rapport du COR. 3 milliards d'excédents, 20 milliards de trous en 2032. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sur une dynamique positive. Et alors, on reproche souvent au COR d'être trop optimiste dans les scénarios qu'il évalue. Et là, c'est quand même beaucoup moins le cas. Il a revu à la baisse les gains de productivité au travail. Il a revu à la baisse l'évolution de la fécondité. Il a revu à la baisse les gains d'espérance de vie. Donc, on est sur quelque chose qui colle un peu plus à quelque chose de crédible, de réaliste par rapport... Enfin, c'est évident que quand vous faites des prévisions à 15 ans, c'est toujours très compliqué.
Quand on voit que la situation, entre guillemets, s'est un peu améliorée, on a tendance à se dire, est-ce qu'il faut vraiment une réforme?
Alors, objectivement, il n'y a aucune urgence économique. Il y a un risque politique tel que, moi, ma position est de dire, c'est pas aujourd'hui qu'il faut ressusciter la réforme des retraites avec un choc énergétique, avec un choc de pouvoir d'achat qui arrive pour 2023. Là, dans les prévisions budgétaires, on laisse entendre quand même qu'on va laisser 15% de la hausse de la facture d'énergie à la charge des ménages. C'est pas le moment, à mon avis, d'engager cette réforme. Quand vous prenez la retraite, qui est quand même un dossier de temps long, on a créé la caisse d'amortissement de la dette sociale il y a une génération, elle est toujours là, elle devait disparaître trois fois, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a une espèce d'urgence fin 2022, début 2023, d'engager une réforme avec laquelle on est à peu près sûr qu'on peut mettre des gens dans la rue? Vous n'avez jamais personne dans la rue quand vous réformez l'assurance chômage. Quand vous réformez les retraites, si. Et pourtant, objectivement, le rapport du COR, il nous dit ça va bien aujourd'hui, mais demain, ce ne sera pas le cas. On sait bien qu'on a un système qui est structurellement en difficulté. On se dirige petit à petit vers un actif pour un retraité. Et là, c'est tout simplement intenable. On voit bien qu'on a un problème de financement de long terme. Si on fait entre 10 et 20 milliards d'euros de déficit annuel en 2027, enfin 2032, il y a un vrai problème de fond. On sait aussi que la réforme des retraites est la seule réforme économique économiques qu'un exécutif peut engager pour dégager de grosses économies. Il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez réformer l'assurance chômage, vous n'aurez pas de grosses économies. Vous pouvez aller essayer de fermer ici et là quelques agences publiques, vous n'aurez pas de grosses économies. Vous pouvez rendre le crédit d'impôt recherche plus vert, vous n'aurez pas de grosses économies. Là, on a des grosses économies qui peuvent permettre de dégager des crédits pour financer les défis. Les défis, c'est pas compliqué, c'est principalement la dépendance, la transition verte, la santé et l'école. Et on sait que la retraite pèse aujourd'hui un quart de l'ensemble de la dépense publique en France. Quand la sphère publique dépense 4, il y a 1 de retraite. Et on a 4 points de PIB, 4 points de retraite de plus dans notre système. Donc il faut, évidemment, ces chiffres-là sont implacables et ils appellent nécessairement une évolution du système. Mais de là à dire qu'il y a une urgence et qu'il faut allumer un incendie social à cause de ça, oui. Alors on connaît les paramètres. On a la durée de cotisation qui est déjà en train de s'allonger avec la réforme Touraine. On a l'âge de départ à la retraite, on a le montant des cotisations payées par les salariés, on a le montant des pensions qui sont perçues par les retraités. Mais en plus, le COR, dans son rapport, constate que mécaniquement, le marché évolue vers un allongement de l'âge effectif de départ, puisqu'on est en moyenne à 62,6 en 2021. Le COR nous dit on sera à 63,6 ans en 2032, à 64,6 en 2020. Donc il y a une déformation mécanique du système qui fait que même si on n'y touche pas, il s'auto-adapte quand même. L'urgence, je considère qu'elle est...
Bon. Qu'est-ce que prépare l'exécutif alors ?
Il y avait la volonté affichée politiquement d'appliquer une réforme à l'été 2023, mais maintenant ce qui se murmure de plus en plus, c'est qu'on va glisser un amendement dès la loi de finances de la sécurité sociale de cet automne. Et donc on va engager une réforme des retraites qui n'était pas au programme. Une réforme des retraites qui est défendue par aucun syndicat, et même le MEDEF considère que ce n'est pas le moment d'aller mettre le souk, pour le dire gentiment. Alors après, l'exécutif nous dit « Ah, mais on est prêt à discuter pour déterminer quels sont les paramètres que l'on va toucher, quel sera le rythme d'évolution de ces paramètres. » Le seul truc que je peux imaginer sur l'amendement qu'on glisserait éventuellement dans le PLFSS 2023, c'est qu'on décide qu'on va raccourcir l'agenda de la réforme Touraine. Elle doit nous amener normalement à 43 ans de cotise en 2035. On peut très bien imaginer qu'un amendement dit que ce sera 43 ans en 2030, par exemple. Et c'est un sujet explosif. Bon, évidemment, après, la meilleure solution pour apporter une réponse de fond à notre problème de retraite, c'est d'augmenter le taux d'activité. C'est qu'il y ait plus de gens qui travaillent, à la fois à la fin de la carrière professionnelle, mais aussi au début. Alors, c'est un peu l'esprit de la grande loi travail qu'Olivier Dussopt est en train de détailler. Hier, il a esquissé les 8 chantiers qu'il considère comme essentiels pour aller vers le plein emploi. Le plein emploi, ça règle le problème des retraites. Il n'y a aucun problème. Mais le plein emploi, on n'y est pas encore. Donc voilà, à mon avis, ne nous précipitons pas sur celle-là.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien reste orienté à la hausse, mais on manque peut-être un petit peu de conviction. On progresse de seulement 0,37% à 6357 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Benoît Lombard est avec nous pour le groupe La Place. Bonjour Benoît.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accompagner. Ce matin, vous nous proposez quelques clés pour mieux comprendre l'imposition qui s'applique sur les capitaux d'essai des contrats d'assurance vie et surtout comment optimiser tout ça, c'est ça ?
Bah oui, parce que l'assurance vie, que l'on sait comme étant un des produits financiers ou assurantiels plus exactement favoris des Français, 18 millions de souscripteurs quand même de contrats, 1850 milliards, enfin quelques chiffres, 150 milliards de collectes depuis le début d'année, chiffre arrêté il y a un mois. Donc c'est un succès. Mais l'assurance vie, c'est un mécanisme original. Cette originalité repose sur un concept du droit civil, la stipulation pour autrui qui est codifiée à l'article 1205 du Code civil. Ça dit quoi ? Ça dit que l'assureur, qui est le promettant, celui qui s'engage, il s'engage à deux choses envers le stipulant, le souscripteur du contrat. Il s'engage à lui reverser les capitaux en cas de vie, c'est le droit de rachat, rachat total, rachat partiel. Et puis, c'est la désignation, c'est le droit d'octroyer les capitaux d'essai à un bénéficiaire qui est désigné. Et par une fiction juridique, ces capitaux sont réputés n'avoir jamais transité par le patrimoine du souscripteur, notre fameux stipulant.
Donc, en clair, il n'y a pas de droit de succession.
Oui, mais c'est important que c'est un concept original qui est niché dans notre droit civil et qui est un concept fiduciaire. C'est très important, cette singularité qui est une dérogation à l'effet relatif des contrats. C'est très important de rappeler ce mécanisme original.
Ce mécanisme, il a des spécificités, vous l'avez rappelé, et il a d'autant plus des spécificités qu'il y a, entre guillemets, trois âges, c'est ça ?
Ah oui, les fameux âges de l'assurance vie. Bon, aujourd'hui, on souscrit un contrat, c'est simple, Donc, il y a un couple qui tombe, on a plus ou moins de 70 ans. on a moins de 170 ans, on souscrit un contrat, on alimente ce contrat, eh bien, les capitaux qui sont versés aux bénéficiaires désignés, déterminés ou déterminables, déterminés, bah, mon fils, hein, déterminable, mon fils Jean ou Olivier ou je ne sais, donc, eh bien, sont exonérés de droits de succession à hauteur de 152 500 euros. Au-delà, il y a une taxe de 20% jusqu'à 700 000 euros. Puis après, il y a 31,25. Et ça, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Donc, je peux multiplier le nombre de bénéficiaires. Et donc, je peux multiplier le nombre de détenteurs de ce fameux abattement de 152 500 euros. Puis après 70 ans, j'ai 30 500 euros qui sont là aussi exonérés en plus. Et les plus-values attachées au contrat, les gains attachés aux produits constatés sur le contrat, échappent aussi aux droits de succession et à tout impôt. Autrement, au-delà des 30 500 euros, ça rentre dans le cadre de l'assiette taxable des droits de succession dans la succession habitée, la succession classique.
Ça, c'est ce qui prévaut aujourd'hui.
Ça, c'est aujourd'hui pour tout le monde. Et puis après, il y avait un autre, puisque en fait, cet abattement de 152 500 euros, il a été créé le 13 novembre 98. Alors, avant le 13 novembre 98, si j'avais moins de 70 ans, eh bien, tout était exonéré de droits de succession.
C'est un instrument magique.
Magique. Mais c'était encore plus magique avant le 20 novembre 91, puisque avant le 20 novembre 91, un petit peu de temps quand même, 31 ans, donc oui, 31 ans, oui, c'est ça, 31 ans, il y a 31 ans, la réforme. Et bien là, du coup, tout était exonéré de droits de succession. Intégralement, tous les capitaux, quel que soit l'âge du souscripteur, quel que soit le montant que je verse, c'était magique. Mais cette magie, elle opère toujours. C'est ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un contrat souscrit avant ces 31 ans, il reste...
Il reste totalement exonéré de la succession, quel que soit le montant. Et en 31 ans, j'espère que les plus-values attachées au contrat, elles se sont, bien évidemment, elles ont fructifié, elles sont de plus en plus importantes. Maintenant, on peut se dire, est-ce que je peux, si je fais un nouveau versement ? Ben, si je fais un nouveau versement, je suis assujetti à cette nouvelle règle. J'ai plus ou moins de 70 ans, bon, hein, 757B ou pas, donc un compartiment spécifique. Mais si jamais je verse sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 91 et que j'ai plus de 70 ans, ben là, dérogation, hein, j'ai droit aux 152 500 euros. Sur le contrat. Donc ça, c'est un point qui est important, parce que ça veut dire que si on a vu un contrat d'avant 91, un contrat qui est souple, un contrat qu'on peut faire évoluer avec la loi Pacte aussi, hein, pourquoi pas, eh bien, je peux faire un versement complémentaire, quel que soit mon âge, à hauteur de cet abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.
Il y a aussi, vous l'avez rappelé rapidement au début, la clé de cette assurance-vie, qui est la clause bénéficiaire, et qui permet là aussi d'optimiser...
Bien sûr.
Des choses.
Il faut faire vivre, on voit, avant 91, 31 ans, 98, ça fait 24 ans, ça fait quand même un petit moment. Eh bien, il faut faire vivre ces clauses bénéficiaires. Puisque, aujourd'hui, la configuration familiale, telle qu'elle existe, a pu évoluer. Les, souscripteurs ont pu, malheureusement, vieillir, comme tout le monde. Mais leurs enfants aussi. Ils ont peut-être des petits-enfants. Et là, la modification de la clause bénéficiaire peut se faire à tout moment, sans que ça remette en cause la fiscalité qui est attachée au moment où j'ai versé les primes sur le contrat. Donc, si jamais j'avais un contrat que j'ai souscrit, j'avais 40 ans, et qu'aujourd'hui j'ai 75 ans, et à 40 ans j'avais deux enfants, et qu'aujourd'hui j'ai deux enfants, mais six petits-enfants, je peux, par le magie des 152 500 euros, multiplier le nombre de bénéficiaires de 152 500 euros, et donc optimiser ma transmission. Et puis aussi, faire preuve de générosité envers une génération qui est un peu compliquée, c'est plus compliqué aujourd'hui pour les jeunes de débuter. Mmh. On peut transmettre, on peut sauter une génération, on peut faire des transmissions générationnelles par le biais de la vie que l'on doit donner à cette clause bénéficiaire.
Sachant qu'en plus, on peut y coller un pacte adjoint qui fait que si on donne à des petits-enfants qui ont moins de 18 ans, ou, etc.,
on peut donner la clause d'administration légale en faveur des parents.
On peut éviter qu'ils crament tout à 18 en partant faire le tour du monde.
On sait qu'on est plus dispendieux à 18 ans qu'à 25 ans, mais enfin bon. Mais alors, on peut modifier cette clause bénéficiaire. Et ça, c'est un point qui est quand même très très important. Par avenant, on envoie à la Comité d'assurance, mais aussi par testament. Et là, il y a un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, de la première Chambre civile de la Cour de cassation, un arrêt récent. Il date du 10 mars 2022 et il dit c'est un souscripteur d'un contrat, il met son fils bénéficiaire et puis après il change, il met son épouse, il le signifie à l'assureur. Et puis il décède, l'épouse prend les capitaux et puis l'avocat de ce souscripteur, il appelle l'assureur et puis il dit dedans un an après le décès. Et il dit le bénéficiaire du contrat... Eh bien, en réalité, c'est pas l'épouse telle qu'il y a dans l'avenant, mais c'est le fils tel qu'il était nommé initialement. J'ai un testament, un écrit qui vaut testament holographe. Et la Cour de cassation a dit, eh bien, ce testament prime sur la clause bénéficiaire. Donc, le testament, c'est une nouveauté. On peut désigner par testament le bénéficiaire de ce contrat. Mais si ce testament s'oppose à la rédaction primitive qui avait attaché au contrat et qui était signifié à l'assureur, y compris si ce testament n'a pas été signifié à l'assureur, y compris donc concrètement si on n'a pas mis dans la clause bénéficiaire qu'on ferme mon testament, eh bien il prime sur la société.
Ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. C'est depuis le 10 mars 2022, arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, et donc très, très important. Donc là, attention, hein, qu'il n'y ait pas d'opposition. Puis juste un petit point aussi, on a beaucoup parlé d'impôts, on a beaucoup parlé de fiscalité. Il ne faut jamais oublier aussi que l'assurance-vie permet de faire échapper au droit de partage de 2,5%. 2,5%, c'est le droit de partage. Vous avez deux héritiers, vous avez 200 000 euros, eh bien, ils se partagent les 100 000 euros chacun, eh bien, vous payez aussi, indépendamment des droits de succession, à supposer qu'il y ait droit de succession, ouais. 200 000 euros, 2,5%. L'assurance-vie permet d'échapper au droit de partage de 2,5%. Droit de partage qui est revenu, juste une chose, à 1,10 en cas de divorce, mais il est toujours à 2,5 en cas de décès.
Vous nous en aviez déjà parlé.
Oui, mais d'accord, mais j'y tiens.
Non, mais on renvoie au replay.
Et je tiens aussi à un autre truc qui est très important. On parlait des 70 ans. 70 ans, l'espérance de vie en 31 ans, pour les femmes, elle a accru de 5 ans et pour les hommes de 7 ans.
Donc il faudrait bouger un peu la marge.
Bah, on pourrait peut-être dire 75 ans ou 80 ans. Ouais. Donc un peu d'inventivité pour permettre de faire respirer les patrimoines, s'il vous plaît, monsieur le législateur.
Benoît Lombard et le groupe La Place. Merci Benoît d'être passé nous voir. Le marché est en hausse de 0,44%, 6361 points. On parlait d'assurance vie, et bien on va continuer à parler d'assurance vie.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Avec Mireille Wimbert. Bonjour Mireille.
Bonjour Cédric.
Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes journaliste indépendante maintenant, vous n'êtes plus à l'Express.
Oui, alors je suis encore un peu à l'Express, mais plus complètement. Il y a eu des changements. On a décidé qu'on mettait les pages patrimoine dont je m'occupais dans les numéros spéciaux placement, ce qui est absolument cohérent. Et du coup, il n'y a plus de pages patrimoine toutes les semaines. D'accord. Dans l'hebdo. Du coup, bah, ça ne sert à rien.
Mais les numéros patrimoine, c'est toujours vous qui les faites.
Oui, c'est ça. Donc je m'occupe toujours des numéros patrimoine, mais je cherche de nouvelles collaborations. Donc j'en profite. N'hésitez pas, si vous avez
c'est
besoin.
C'est une petite annonce en
voilà,
plus.
Voilà, je fais mes petites annonces, tout à fait.
Bon, je disais qu'on allait continuer à parler d'assurance-vie. Oui, effectivement, absolument. Avec vous, on continue de parler d'assurance-vie. On est dans un moment où on voit les taux qui montent. Les rendements des fonds en euros de l'assurance-vie, eux, avaient plutôt tendance à baisser. C'est-à-dire qu'on va les voir remonter maintenant?
Alors, pas chez tous les assureurs, ça va dépendre de leur politique. Mais c'est vrai que l'assurance-vie, c'est assez contre-intuitif parce qu'on explique aux gens depuis des années que les assureurs, en regard du fonds en euros, ils investissent dans des obligations. Les assureurs, en effet, ils sont à 80% en obligation. Une obligation, c'est un produit de taux. Or, les taux montent. Donc, le rendement de ces obligations, il monte. Donc, naturellement, on se dit, ah bah youpi, l'année prochaine, le rendement qu'on va m'annoncer en début 2023 pour l'année 2022 de mon fonds garanti en euros va être plus élevé que l'année dernière. Eh ben, pas forcément. Pourquoi ? On dit les assureurs tiennent leurs obligations. Quand un assureur achète une obligation, il la tient sur toute la durée, pour pas avoir de risque de marché, justement. Et il la tient sur toute la durée parce qu'en face, c'est ça, leur fameuse gestion actif-passif, eh bien les contrats d'assurance-vie, on les garde longtemps. Donc lui, il fait ça, l'assureur. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, l'OAT, c'est l'obligation qui est émise par l'État français sur 10 ans. Donc absolument sans risque. L'OAT, c'est ce fameux taux qui était proche de zéro à une certaine période.
Elle est à 2,25 ce matin.
Elle est, hier, 2,21, 2,25. Donc ça, une hausse forte. Est-ce que d'un coup d'un seul, toutes les obligations des assureurs vont passer à 2,25? Eh bien non, parce que les assureurs cette année, ils vont les obligations dont ils vont se séparer, c'est celles qui arrivent à échéance. Ils les ont souscrites il y a plus de 8 ans, il y a plus de 10 ans. C'était à cette époque-là supérieur au taux d'aujourd'hui. Donc ils ont en portefeuille un rendement qui va tomber et ils vont prendre un nouveau rendement qui est un petit peu inférieur. Alors ça dépend des assureurs, ça dépend des durations,
ouais,
etc. Mais en gros, je vous fais très schématiquement. Ce qui veut dire que le fonds, l'actif général, ce truc qui permet de donner le taux de rendement du fonds en euros, eh bien en 2022, il n'y a aucune raison qu'il soit meilleur qu'en 2021, d'autant que, je vous ai dit, il y a 80% d'obligations, donc là on a vu que c'était pas nécessairement mieux rémunéré puisque c'est les obligations anciennes qui tombent, mais il y a une poche action aussi. Et là, je vous en parlais toute la journée. Vous voyez un peu les marchés en ce moment par rapport à ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc effectivement, il est un peu tôt dans l'année pour dire ce qui va se passer. Mais enfin, si ça continue comme ça, l'actif général des assureurs va pas tout seul, financièrement parlant, cracher un rendement meilleur que l'an dernier. Donc on va se dire, bah, pourquoi diable augmenterait-on les taux?
Bon, mais s'ils décident, enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser les assureurs à monter les taux?
Alors après, c'est une décision effectivement qui est commerciale.
On est dans un environnement. On sait qu'ils font des réserves, hein, les assureurs.
Oui, mais on est dans un environnement qui est extrêmement, qui est, enfin, vous voyez bien, il y a de l'inflation, les assureurs peuvent pas rester étrangers à ça. On va pas dire, je vous donne.
Ils peuvent
rien
pas se faire rattraper par les livrets A.
Et puis il y a le livret A. En effet, je vous rappelle, les assureurs, ils annoncent leur rendement 2022 quand au juste? C'est en janvier-février l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe en janvier-février l'année prochaine si la situation continue à être telle qu'elle est? Le taux du livret A qui est à 2
va encore monter.
Donc au moment où les banquiers disent Mon livret A, il est à 2, je ne sais pas combien il va être, mais à plus que 2, on va dire. Les assureurs vont dire, ben moi, je vous donne le même rendement que l'année dernière sur le fonds garanti en euros. C'est pas top. Alors, c'est pas top, ça dépend, encore une fois, de leur politique.
Et parce qu'ils ont, pour faire monter les taux, des leviers sur lesquels ils peuvent agir.
D'après la profession, quand on regarde un peu, j'ai interrogé de ci, de là, Cyril Chartier-Kessler, qui est un consultant qui regarde ça de près, me dit, pour moi, les taux vont monter. Pour lui, les taux étaient du fonds en euros à 1,1% en 2021. Et de ce 1,1, on va passer en moyenne de 1,6 à 2%. Voilà, mais une moyenne, ça veut dire que les contrats phares, les meilleurs contrats du marché, eux vont pouvoir être à plus que 2%. C'est le cas notamment, la semaine dernière, MACSF nous a dit qu'ils allaient faire plus de 2% sur les prochaines années. Ils l'avaient annoncé en début d'année, ils l'ont confirmé. Pourquoi ? Bah parce que ils ont les moyens de le faire. Alors eux, il y a non seulement en effet les fameuses provisions dont vous parlez, les assureurs chaque année mettent en réserve du rendement. Au niveau de la profession aujourd'hui, ils ont 5,05% de rendement en réserve. Donc si vraiment il y a une cata, ils peuvent piocher dedans. C'est ce qu'ils vont faire cette année, justement, puisque je vous ai dit, leur actif général
n'est pas forcément, se démarquer du livret.
Pas forcément meilleur que l'année dernière, mais ils peuvent le faire. Certains ne vont pas avoir envie de le faire. Si je prends par exemple AXA. AXA, depuis quelques années, ils ont une politique où, comme pas mal d'assureurs d'ailleurs, ils orientent les gens vers les unités de compte, ce qui est une bonne chose. Et puis surtout, ils font la promotion du fonds en eurocroissance, qui est un genre de fonds en euros, mais la garantie, elle n'est pas quotidienne, elle est à 10 ans. AXA, l'an dernier, si on regarde les rendements, 0,9% sur le fonds garanti en euros, 1,35% sur ce même fonds garanti en euros, si vous aviez mis un certain montant d'unités de compte à côté, et puis le fonds eurocroissance, 3%. Donc AXA, c'est pas qu'ils ont pas de, ils ont effectivement une provision pour participation aux bénéfices, donc une réserve de rendement qui est plus faible que les autres, mais ils ont par ailleurs des plus-values, donc c'est vraiment pas un souci financier. Ils ont de quoi soutenir les taux, mais ils ont pas envie de le faire nécessairement.
Cela étant dit, s'ils choisissent de soutenir et si l'inflation est forte et si le livret A est remonté, ils pourraient finir par assécher leurs réserves, non ?
Alors pour assécher, pour qu'il y ait vraiment un souci sur le marché, c'est, vous savez, on nous disait, on criait au loup depuis des années, on disait oh là là, si les taux montent, les pauvres assureurs, etc. Quand les taux montent, c'est une excellente nouvelle pour la solvabilité des assureurs, en général. Pas juste pour ce fonds en euros, en général. Ça veut dire que mon assureur, il est plus solide. Donc, a priori, ça va. Pour les fonds en euros, on a vu, ça prend plus de temps, parce qu'il y a l'effet inertie. Donc, les fonds en euros sont pas à la valeur de marché du taux obligataire actuel. C'est pas une SICAV. Bon. Pour les assureurs, là, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'y a absolument aucun problème. Il peut y avoir un problème si les taux montent très fortement, ce qui a été le cas quand même, ça a été monté. Si cette hausse, elle est durable, donc ça dure longtemps, et que tous les gens rachètent. Là, ça peut être un vrai, mais là, on n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, le ciel est plutôt bleu pour les assureurs.
Bon, les taux vont donc, a priori, remonter.
Pas chez tout le monde, mais il est possible. Je pense que la plupart des assureurs, enfin ceux qui tiennent à leur fonds garanti en euros, vont avoir envie de le booster.
Malgré tout, même à la hausse, ils resteront...
Les rendements seront négatifs en 2022 parce que si on regarde les dernières prévisions de l'INSEE, donc c'était fin août, je crois, l'INSEE anticipe un taux d'inflation de 5,50% sur l'ensemble de l'année en France. 5,5% en supposant même que les fonds en euros arrivent en moyenne à 1,60 ou à un fameux 2%. Là. C'est quand même négatif.
On perdra quand même de l'argent.
On perdra 3,50%.
Il y a une façon de s'en prémunir ou pas ?
Il faudrait justement sortir du fonds en euros. Alors vous restez dans le fonds en euros si vous avez besoin d'argent à court terme, si vous êtes complètement inverse au risque. Si vous avez besoin d'emprunter avec votre contrat d'assurance vie en garantie, c'est mieux d'avoir du truc sur fonds en euros. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, si c'est une épargne à long terme, sortez de ce fonds en euros. Allez voir ailleurs. Sortez raisonnablement, bien sûr. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus rémunératrices en ce moment. Alors, vous avez vu, les marchés actions, ce n'est pas la joie non plus. Les obligations en tant que telles sont négatives aussi, puisque quand les taux montent, les obligations anciennes qui ont des taux inférieurs sont en moins-value, naturellement. En revanche, ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont les produits structurés.
D'accord.
Donc ça, c'est des constructions qu'on fait, mais avec les obligations, avec les taux d'obligataires qui sont un peu plus élevés, ça permet de donner une garantie en capital. Donc là, par exemple, Benoît me disait tout à l'heure, il voit des produits, 3-5% de rendement sur 2 ans, capital totalement garanti au bout de 2. Enfin, vous voyez, donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les produits structurés. Les assureurs en proposent énormément en ce moment. Moi, je suis submergée dans ma boîte mail de produits de ce type-là. Et il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Alors, pas les fonds obligataires, parce qu'encore une fois, si les obligations continuent de monter, c'est quand même, on ne sait pas, mais a priori c'est ce qui devrait arriver, les fonds obligataires vont être en moins-value, mais on peut prendre des fonds obligataires à échéance qui eux sont bloqués, et là ça vous offre 4-5%. Là aussi, les assureurs en font.
Mireille Wimbert. Merci Mireille. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. D'ici là, n'hésitez pas à vous référer au podcast qui vous attend sur le site. Il vous permet de retrouver toute ou partie de l'émission à l'instant qui vous convient le mieux. Et restez avec nous dans un instant. Un détour par les marchés et puis regard croisé.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.